vertueuses travailleurs, chers amis, chers camarades. Donc la campagne présidentielle, vous l'avez constaté avec l'élection de Macron, n'ont été qu'une parenthèse. Tout est reparti comme avant. Macron a repris les attaques anti-ouvrières exactement là où Hollande les avait laissées. Il a repris les mêmes mensonges. Facilitons les licenciements et il y aura des embauches. Mettons de la flexibilité, cela créera des emplois. Que les riches s'enrichissent et ça ira mieux pour tout le monde. Et puis on a un gouvernement qui fait preuve aussi exactement du même mépris. Après la racaille de Sarkozy, les sans-dents et les manifestants voyous sous Hollande, voilà que Macron accuse les opposants à sa politique d'être des fainéants, des cyniques et de foutre le bordel. Pour un président qui nous promettait de faire de la politique autrement, nous ne sommes pas dépaysés. Alors, il prétend donc avoir renouvelé complètement la politique. Mais cela fait 20 ans, 30 ans que tous les politiciens de droite et de gauche font des ponts d'or à la bourgeoisie, qu'ils baissent les impôts patronaux et s'attaquent au code du travail. Les cotisations patronales ont été baissées. La flexibilité et la précarité s'est généralisée. Le code du travail a été révisé 5 fois, 10 fois. Pour quel résultat? Est-ce que le chômage a baissé? Y a-t-il plus d'embauches pour les jeunes? Non. Tout ce qui a augmenté, ce sont les dividendes, la rentabilité et les profits. Et l'année 2017 s'annonce comme un cru exceptionnel, avec rien que pour le premier semestre 2017, donc, 52 milliards de bénéfices annoncés pour les entreprises du CAC 40. Et avec la politique de Macron, cela va évidemment continuer. Au budget 2018, entre la quasi-disparition de l'impôt sur la fortune et la baisse de l'impôt sur le capital, il y a plus de 5 milliards de cadeaux offerts aux plus riches. Pour les classes populaires, c'est la hausse de la CSG de 1,7 point, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du forfait hospitalier, l'augmentation du paquet de cigarettes. Les APL ont augmenté de 5 euros au 1er octobre, mais c'est de 50 euros par mois qu'ils baisseront en 2018. Et puis, il y aura la suppression de 120 000 contrats aidés. Dans la fonction publique, les salaires seront gelés, le jour de carence rétabli et 1 600 postes seront supprimés pour l'année 2018. Après tout cela, le gouvernement assure que la grande majorité des classes populaires n'y perdra pas, parce que dans le même temps, il va supprimer pour beaucoup la taxe d'habitation et baisser les cotisations salariales. Ce sont des tours de passe-passe. Le gouvernement donne d'une main pour reprendre de l'autre. Et nous paierons de mille façons la quasi-disparition de la taxe d'habitation, parce que les municipalités augmenteront le prix des cantines, parce qu'elles réduiront l'accès aux équipements publics. Le gouvernement assure aussi qu'il l'imposera aux HLM de baisser leur loyer pour compenser, vous savez, cette baisse de 50 euros. Cela aussi, ça nous retombera dessus. Parce que les bailleurs sociaux qui manquent déjà d'argent entretiendront moins les bâtiments, rénoveront moins et tout simplement construiront moins. Et les retraités seront les premiers à payer cette politique. Avec cynisme, Macron a expliqué que l'on peut leur demander un effort de solidarité parce que, je le cite, « les pauvres sont souvent moins les retraités que les jeunes ». Autrement dit, ils demandent la solidarité entre pauvres. Alors d'abord, on n'a pas attendu Macron pour être solidaire entre nous et surtout, on n'a pas à accepter d'être sacrifié au profit des plus riches. Macron était l'homme de la finance et de la grande bourgeoisie quand il travaillait chez Rothschild. Eh bien, il est aujourd'hui en tant que président de la République. Et tous ceux qui se sont déjà mobilisés contre sa politique ont eu mille fois raison de le faire et il faut se saisir de toutes les possibilités qu'il y aura dans l'avenir pour continuer. Macron est le représentant de la bourgeoisie. Il a son arrogance, le mépris de classe et il lancera son serviteur zélé. Mais l'offensive contre les travailleurs dépasse les choix d'un Macron, comme elle dépassait les choix d'un Hollande ou d'un Sarkozy. Parce que cette offensive contre le monde ouvrier, elle est d'abord le fait de la bourgeoisie, qui mène une lutte de classe acharnée contre le monde du travail pour accroître l'exploitation et son parasitisme sur l'économie. Et il suffit d'écouter les conditions de travail actuelles à PSA, mais aussi de voir les conditions de travail chez Lidl, dans les maisons de retraite, pour le mesurer. Cette guerre contre les travailleurs, elle est inscrite dans le système capitaliste lui-même. Et dans le contexte de crise économique, cette lutte de classe ne peut qu'être toujours plus acharnée. La bourgeoisie ne peut plus espérer accroître ses profits au travers de l'extension de ses marchés, ils sont saturés. La concurrence est exacerbée, alors elle ne peut les augmenter que dans le parasitisme croissant de la finance et l'aggravation de l'exploitation du monde ouvrier. Les profits supplémentaires des entreprises du CAC 40, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils ont été pris sur les travailleurs, sur leur salaire, sur leur emploi, sur leurs conditions de travail, sur leurs congés. Macron a été élu pour servir la bourgeoisie alors qu'elle est confrontée à la persistance de la crise de l'économie capitaliste et qu'elle mène une guerre à mort contre le monde du travail. Et dans ce contexte, il n'y a jamais eu et il ne peut y avoir d'état de grâce pour le président de la République. Nous allons vers une période d'instabilité politique et sociale. Et le simple fait que Macron soit contesté au bout de 4 mois, alors qu'il avait fallu attendre 4 ans pour que les travailleurs se manifestent contre Hollande, le montre. Et cette contestation, elle peut venir de tous les côtés. Bien des petits artisans et commerçants subissent aussi les conséquences de la crise. Une fraction du patronat et de la petite bourgeoisie souffrent de la finance et du pouvoir de l'argent. Eux aussi, ils ont leurs problèmes et leurs revendications. Et ils savent très bien se battre. On se souvient des manifestations des chauffeurs de taxi, des différents coups de colère des agriculteurs, y compris des coups de gueule des buralistes ou des policiers. Alors on pourrait se dire que tout ça c'est très bien, parce que ça participe d'une seule et même protestation, mais ce n'est pas vrai. Si les travailleurs regardent les autres catégories sociales se plaindre et revendiquer, sans se battre eux-mêmes pour leurs intérêts, pour leur propre classe sociale, eh bien cela leur retombera dessus. Parce que si Macron cède sur certaines revendications des artisans ou de commerçants, vous pouvez être sûr qu'il nous les fera payer à nous. Alors la seule conclusion que nous avons à tirer, c'est que nous ne devons pas rester muets. Laisser la protestation à des catégories sociales liées au patronat, à la propriété privée, à l'ordre bourgeois, ne peut que tirer la société dans un sens plus réactionnaire. Il faut que le monde du travail fasse de la politique en mettant en avant ses intérêts de classe contre la classe capitaliste. Et nous ne sommes pas condamnés à subir pendant 5 ans les coups d'un Macron. Aujourd'hui, il paraît tout puissant. Il a un Parlement à sa botte. Mais ce sera vrai tant que le monde du travail reste sans réaction. Mais le jour où le monde du travail se lèvera, le jour où la bourgeoisie sentira à nouveau le volcan en éruption, comme elle l'a senti en mai-juin 1936 et plus près de nous en mai 68, tout peut changer. Pour ne prendre que l'exemple de 68, avant cette mobilisation, De Gaulle était présenté par le PCF et la CGT comme incarnant un pouvoir fort. C'était le prétexte pour justifier leur passivité et leur politique électoraliste. Tout était suspendu aux élections susceptibles d'éliminer De Gaulle. Et puis, il y eut l'explosion de mai-juin 1968. Des grèves se sont répandues comme une traînée de poudre dans tout le pays. Elles ont bouleversé la situation politique, poussant plus tard De Gaulle à la démission. Et Macron n'est pas De Gaulle, loin de là. Alors, encore une fois, tout dépend de la capacité des travailleurs à reprendre confiance dans leurs forces. Les mobilisations de ce début de l'année ont montré que sa politique est contestée de tous les côtés. Le recul imposé par la contestation des chauffeurs routiers montre qu'il est possible de faire reculer le gouvernement. Bien, tout cela ne doit être qu'un début. Ce qui est sûr, c'est que les travailleurs gardent toute leur force collective. Les grèves, les manifestations, les occupations d'usines, et nous espérons bien que très vite, ils s'en serviront. Aujourd'hui, certains travailleurs, des militants de gauche pensent, je les cite, qu'on n'a finalement que ce que l'on mérite, qu'il fallait bien voter, et que si Mélenchon avait été élu, on ne serait pas dans cette situation. Eh bien si, on serait fondamentalement dans la même situation. On serait confronté à la même rapacité patronale, à la même dictature de la finance, à la même offensive de la bourgeoisie. Et le président Mélenchon accompagnerait cette offensive, comme Hollande, Jospin, Mitterrand l'ont accompagné en leur temps. Face à l'attaque de Macron et du grand patronat, beaucoup parmi nous ressentent le besoin d'une solution politique. Oui, bien sûr, la réponse doit être politique. Mais la réédition d'une énième union de la gauche est contraire aux intérêts des travailleurs. Le gouvernement est le conseil d'administration de la bourgeoisie, disait Lénine. Combien de fois l'avons-nous vérifié, y compris quand le gouvernement se disait de gauche? Nous l'avons vérifié avec Mitterrand, Jospin et Hollande. Et c'est leur politique qui a conduit à l'état de démoralisation et de désorientation où se trouve aujourd'hui le monde du travail. Il ne peut pas y avoir de bon gouvernement de gauche dans le cadre du système capitaliste. À partir du moment où le président gouverne en respectant la propriété privée du capital, en acceptant la loi du profit et de la concurrence, il se voue à servir les intérêts de cette classe bourgeoise. Tant que la bourgeoisie dominera la société et l'économie du haut de sa propriété, on nous amusera avec les élections et les changements de gouvernement, mais nous continuerons de subir sa dictature. Cela changera si les travailleurs arrachent le pouvoir à la bourgeoisie, s'ils mettent fin à la propriété privée des moyens de production, à la concurrence et à la loi aveugle du profit. Cela changera lorsque les travailleurs se porteront eux-mêmes à la direction des entreprises et de la société, comme cela s'est produit lors de périodes révolutionnaires, au moment de la Commune de Paris ou de la Révolution russe. Le sort des opprimés ne peut changer qu'au travers d'une révolution. Au travers d'une période où des millions de femmes et d'hommes décidés à ne plus subir agissent et se dépassent pour prendre collectivement leur sort en main. Dans la plupart des pays, ce sont les événements révolutionnaires qui ont marqué l'histoire, pas les noms des présidents ou les changements institutionnels que tout le monde d'ailleurs a oubliés. Il y a eu 1789 en France, la Révolution française. En 1848, toute l'Europe fut secouée par une vague révolutionnaire. En 1871, il y eut la Commune de Paris, la Révolution russe en 1917, qui entraîna dans son sillage révolutionnaire la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne, la Chine. En 1936, il y eut la Révolution espagnole, puis les soulèvements des peuples colonisés, avec, entre autres, les révoltes indochinoises, algériennes, cubaines, et j'en passe. Ce sont ces périodes qui ont fait l'histoire. C'est l'élan révolutionnaire, ce bouleversement des consciences qui transforme des millions de femmes et d'hommes et ouvre des perspectives à toute la société. Et c'est pour ce genre de période que nous militons. Et nous militons pour que les travailleurs qui portent en eux la possibilité de construire une société sans classe dominante, sans exploitation et sans frontières, puissent prendre la tête de cette révolution. Ce n'est pas une utopie. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et l'exercer pour transformer la société par en bas et en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Cette révolution a dégénéré et débouché sur une des pires dictatures du XXe siècle, la dictature stalinienne. Cela suffit aux anticommunistes pour assimiler la révolution et l'idéal communiste à la dictature de Staline. Mais au même moment, il y avait en Italie la dictature de Mussolini, celle de Hitler en Allemagne, et aux États-Unis, il y a eu une répression féroce contre les travailleurs. Et vous remarquerez que jamais personne n'assimile celle-ci au capitalisme. Alors, non, il ne faut pas marcher dans la réécriture de l'histoire. Les détracteurs de la Révolution russe veulent nous faire croire que les idées de Marx et de Lénine sont inapplicables, voire dangereuses. Autrement dit, il n'y aurait rien à garder de la révolution russe. Ben, nous pensons exactement l'inverse. Cette révolution est une période dont les travailleurs du monde entier peuvent être fiers et qui ne peut que conforter ceux qui aspirent à changer le monde. Car ce sont bien les ouvriers et les paysans russes qui réussirent, en février 1917, au bout de 5 jours d'insurrection, à renverser un rempart de l'absolutisme en Europe, la dynastie des Romanov, qui régnait depuis 3 siècles sur une véritable prison des peuples. C'est la révolution des ouvriers et des paysans qui imposa la paix, alors que ces grandes démocraties que sont la France et la Grande-Bretagne voulaient à tout prix poursuivre la guerre pour leurs intérêts impérialistes. Et avec le parti bolchevique, les ouvriers et les paysans russes réussirent à s'emparer du pouvoir et ils s'en servirent pour transformer la vie des plus pauvres. Au travers des soviets, des conseils, des délégués choisis dans les usines, dans les régiments et dans les villages, ils construisirent une démocratie ouvrière. Ils firent naître un pouvoir ouvrier où les généraux étaient tenus en respect par de simples soldats, où le paysan journalier faisait fonction de maire dans son village, où les ouvriers contrôlaient les décisions prises dans leur usine, réorganisaient la production et le travail en fonction des intérêts du plus grand nombre. Comme le raconte un journaliste américain témoin de ces événements, les soviets étaient composés non de politiciens bavards et ignorants, mais d'hommes qui connaissaient leur métier, de mineurs qui savaient ce qu'est une mine, de mécaniciens qui savaient ce qu'est une machine, de paysans qui savaient ce qu'est la terre, de soldats qui savaient ce qu'est la guerre, d'instituteurs qui savaient ce que sont les enfants. Et ce sont ces soviets, avec à leur tête les bolcheviks et les nines, qui firent ce qu'aucun gouvernement n'a jamais fait. Aussitôt nommé, le gouvernement soviétique publia les traités secrets qui avaient été signés par la Russie avec les puissances impérialistes. Il décréta la réforme agraire la plus radicale qui soit, en abolissant immédiatement et sans aucune indemnité la propriété des propriétaires fonciers et en distribuant la terre aux paysans qui voulaient la cultiver. Il organisa le ravitaillement et la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il trouva un toit pour tous, en imposant aux familles bourgeoises de se serrer un peu et en transformant leurs hôtels particuliers en logements collectifs. Il donna aussi la possibilité à tous les peuples qui étaient sous domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a donné l'égalité des droits aux femmes. Il a légalisé le divorce. Il a tenté de libérer les femmes des tâches domestiques et de les associer à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Alors, même si le stalinisme a finalement pris le dessus en déformant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, on ne peut pas effacer ce qui a été réalisé. La révolution russe est la preuve que les travailleurs sont capables de transformer la société comme aucune autre classe sociale n'est capable de le faire. En 1800... Je voulais juste rajouter qu'en 1848, Marx commençait le manifeste du Parti communiste par la célèbre phrase « Un spectre hante l'Europe ». Le spectre du communisme. Eh bien, la révolution russe a transformé le spectre en force bien réelle, qui a ébranlé le monde, et aujourd'hui, nous pouvons dire que, oui, le pouvoir des travailleurs n'est pas une utopie. Que les travailleurs s'emparent du pouvoir économique et politique par en bas, en construisant leurs propres organes de contrôle et de pouvoir, voilà notre perspective. C'est cette conviction profonde qui nous sépare de la politique des partis réformistes que sont le PCF et la France insoumise de Mélenchon. Cette perspective nous distingue sur le long terme, mais elle nous différencie aussi au quotidien, dans la façon de tourner toute notre politique et nos efforts vers la classe ouvrière et les luttes qu'elle peut mener. À l'inverse des partis réformistes qui sont intégrés dans les institutions et dans la gestion du système, et qui n'ont de cesse de se montrer respectables vis-à-vis de la bourgeoisie, nous n'avons aucun fil à la patte. Et nous sommes en mesure non seulement de soutenir inconditionnellement les travailleurs qui se battent sur la base de leurs intérêts de classe, mais nous sommes aussi pour qu'ils aillent au bout de toutes leurs possibilités. Nous ne craignons pas que les luttes ouvrières aillent trop loin, qu'elles empiètent sur la propriété privée ou qu'elles déclenchent l'affrontement général. Et nous militons pour que ces luttes soient dirigées par les travailleurs eux-mêmes, pour qu'à chaque mobilisation, aussi minime soit-elle, ils puissent discuter et décider eux-mêmes de leur action. Et cela aussi, c'est une différence que nous avons, en particulier avec le parti de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne se situe pas seulement dans le cadre du capitalisme. Ce n'est pas seulement un réformiste qui prétend pouvoir moraliser et humaniser le capitalisme. C'est aussi un politicien étranger à la classe ouvrière. Son problème n'est pas d'armer la classe ouvrière. Ce n'est pas de lui apprendre sa propre force. Ce n'est pas de la conduire à agir par elle-même. Eh bien, nous, c'est notre raison d'être. Nous militons pour que la classe ouvrière accède à la conscience que la tâche de transformer la société dépend d'elle et qu'elle en est capable. Le monde du travail est sans cesse rabaissé quand les patrons et la bourgeoisie sont mis sur un piédestal. À les entendre, ce sont eux, les patrons, qui donnent du travail aux salariés. Ce sont eux, les patrons, qui font vivre les salariés. Mais qui mouille sa chemise sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics? Qui s'escarpe la santé sur les chaînes de montage de l'agroalimentaire, de l'automobile? Qui se dévoue au chevet des anciens, des malades, qui se lèvent à 4h du matin pour rejoindre les bataillons du nettoyage? Et en plus de faire tout le travail manuel et intellectuel, nous produisons aussi le profit qui est exigé par le capital. Alors, n'en déplaise à la bourgeoisie et derrière elle à la kyrielle de petits patrons arrogants et méprisants, c'est notre classe qui les fait vivre. C'est nous. Entretenons la petite frange d'ultra-riches qui compose le monde bourgeois. Et nous l'entretenons au premier sens du terme, car même dans leur quartier réservé, même dans leur palace, sur leur yacht de luxe, eh bien ils ont besoin de femmes de ménage, de chauffeurs, de comptables, de cuisiniers. Collectivement, les travailleurs produisent toutes les richesses. Ils résolvent nombre de problèmes techniques. Mais parce qu'on leur met cela dans le crâne dès le biberon, ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences pour diriger et qu'il faut bien des patrons pour cela. On nous rabâche que pour faire fonctionner la société et l'État, il faut avoir fait de hautes études, appartenir aux élites. Parce que certains seraient qualifiés pour diriger, il faudrait les laisser faire. Eh bien, il faut s'opposer à ce préjugé-là. Collectivement, les travailleurs sont tout à fait capables de diriger la société. Et ils le feraient mille fois mieux que les capitalistes et leurs serviteurs politiciens, parce qu'au pouvoir, ils ne seraient pas aveuglés par le profit individuel. Et il faut tout le culot d'un ex-banquier dont toute la classe sociale roule sur l'or et se vautre dans un luxe insolent pour accuser d'égoïsme, de corporatisme les travailleurs quand ils revendiquent, au contraire de la bourgeoisie. Lorsque les travailleurs défendent leurs intérêts, ils représentent ceux du plus grand nombre. Et il représente même les intérêts de toute l'humanité. Parce que, et je finirai là-dessus, l'enjeu du combat qui oppose le monde du travail à la bourgeoisie, au capitalisme, dépasse la défense de nos droits matériels. Il n'y a pas que l'effondrement de l'économie et la montée de la pauvreté qui nous menacent. Il y a aussi les dérèglements écologiques, les menaces guerrières, le terrorisme. En réalité, la domination de l'argent et le capitalisme pourrissent tout. Ils désagrègent les rapports humains, ils détruisent la planète et menacent la survie de l'humanité. Alors oui, le combat des travailleurs qui n'ont rien à perdre que leur chaîne est le seul à offrir une issue à l'humanité. La classe ouvrière, les exploités, représentent une force sociale unique et irremplaçable. De la même façon qu'ils font aujourd'hui tourner toute la société pour le compte des capitalistes, les travailleurs seront capables demain, de la faire tourner pour les intérêts collectifs de la grande majorité. Aucune autre force sociale ne recèle cette force révolutionnaire et cette capacité de transformer et de reconstruire une société. Dans le passé, de grands partis ont défendu cette perspective. Aujourd'hui, il n'en existe plus. C'est ce parti que nous voulons reconstruire. Alors, si vous en êtes d'accord, aidez-nous à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes pour défendre autour d'eux, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, cette perspective, la perspective de transformer la société pour créer une société communiste.
Question de la fin du passé, faisons table rase, fous l'esclave debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain.